patria, patriarca, 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 patria.
Les miens, boucle beat chain, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hot.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon.
L'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Kaleidoscope 97 FM dans Dégenré, l'émission féministe pour déranger, mais pas que. Alors aujourd'hui, on voudrait vous parler des relations entre meufs, filles, femmes, gouines, enfin on peut les appeler de plein de manières différentes. On voulait vous parler des formes qu'elles peuvent prendre, de l'importance qu'elles ont dans nos vies, de la force qu'elles nous donnent ou que parfois ben, elles nous enlèvent, malheureusement. Et pourquoi parler de ce sujet, des relations entre meufs? Parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui est important dans nos vies quotidiennes, en tant que féministes, mais aussi en tant que meufs. Et pourtant, c'est un sujet qui est assez invisible, dans les médias par exemple, dans la littérature ou même dans les films. Alors nous, on s'est dit qu'on voulait donner de la place à ça, parler de solidarité, ou plutôt de sororité. Sororité, ce serait comme un espèce de mélange entre le fait d'être sœur et le fait d'être solidaire. Et pourquoi parler de sororité? Parce que ce monde dans lequel on vit, on le trouve individualiste, on trouve qu'il nous pousse à nous diviser, à être isolés, et surtout en tant que meuf. Et bon, on parlera de solidarité, on parlera de sororité parce que c'est des sujets qui nous plaisent, mais on n'oubliera pas aussi de parler de rivalité, de concurrence, parce qu'on a beau vouloir être solidaire, et bien parfois on est aussi en conflit. Alors on n'est pas là pour donner la bonne parole, ni pour faire des leçons de féminisme, mais plutôt pour discuter entre nous de comment se passent nos rapports, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui nous apporte. Et la première question que je voudrais poser à toute l'équipe qui est réunie avec moi, c'est pourquoi ce terme de meuf et pas celui de fille, de femme, de gouine, de...
Ah mais ça c'est un sujet compliqué, hein.
Enfin, on en a un peu discuté en se disant, mais mince, on parle d'une émission qui parle des relations entre meufs, entre filles, et puis on se disait, mais en fait, juste, on se définit pas toutes de la même manière, on n'a pas toutes les mêmes manières, on se reconnaît pas toutes dans les mêmes termes. Et puis, je crois, on a utilisé un peu meuf à des moments ou souvent parce que ça nous semblait un peu hein, consensuel ou quelque chose comme ça, mais même après dans les interviews qu'il y a dans l'émission, on entend des personnes qui expliquent que plutôt elles ont envie qu'on emploie le terme fille ou qu'elles disent fille parce qu'elles n'ont pas envie de dire femme ou des trucs comme ça.
Oui, puis femme, c'est un terme qui est hyper connoté quand même dans ce qu'on nous a appris, ce que ça voulait dire là. Par exemple, quand on a ses règles pour la première fois, on nous dit « Ah bravo ma fille, maintenant tu es une femme » et enfin, on en parlait et on se disait « Ah mais on est plusieurs à qui ça a juste fait trop peur ce mot, ça voulait dire bah, ça y est, ça va être la souffrance, ça va être tout un tas de trucs qui vont avec, soit la féminité, soit la soumission, enfin c'est ça aussi dans la définition hétéropatriarcale de femme, c'est quand même pas super funky quoi, alors on peut se le réapproprier mais c'est quand même très connoté, alors nous ça nous allait plus nous définir comme meuf, fille, gouine...
Moi, fille, quand même, je trouve ça un peu cucu. Hein.
Alors, peut-être on va commencer directement maintenant avec une première interview. Et alors, du coup, on va écouter une interview qui dure à peu près 10 minutes, qui enchaîne des réponses de différentes personnes aux mêmes questions. Bonne écoute.
La, la.
Les filles dans ta vie, c'est important ? Pourquoi ? Est-ce que ça a changé au cours de ta vie ?
Les filles dans ma vie, ça n'a pas toujours été important. Avant, j'aimais pas du tout être avec des filles. Quand j'étais plus jeune, ado, tout ça, je trouvais pas ma place. Et j'aimais pas du tout être une fille, être avec des filles. Et par contre, avec le temps, j'ai beaucoup aimé être avec des filles, surtout ces derniers temps. Ça m'a beaucoup aidée sur plein de domaines et plein de questions. Et je trouve ça important dans la vie d'avoir des super copines avec qui échanger et qui sont là pour toi. Et tu es là pour elles. Et c'est chouette.
Il y a eu une raison particulière, un déclic
C'était déjà sur le tard, on va dire. J'avais plus de 20 ans. Avant, j'avais eu parfois des copines, mais qui avaient un peu le même style que moi, qui n'avaient pas de copines. Donc, entre pas de copines, on devenait copines. Mais là, c'était une copine féministe. Et en fait, je pouvais être une fille et être surtout moi et partager plein de choses avec d'autres filles. Et ça, ça a été vraiment une rencontre féministe.
Très longtemps, j'ai eu, je pense, cette espèce de positionnement qui est « Oui, mais les filles, les garçons, on est tous pareils, tout va bien. » Enfin, tu vois, l'égalité des sexes, elle est là, quoi. Alors que j'étais très ouverte à entendre beaucoup de positionnements différents. Le féminisme, j'ai mis hyper longtemps avant de réussir à en rentrer, ne serait-ce qu'en contact, et à essayer de comprendre sur quoi ça jouait. Et du coup, ça a changé beaucoup de choses. J'ai besoin des filles.
J'ai fui les filles pendant très longtemps. Et j'avais des grosses difficultés dans mes relations avec les filles. Et aujourd'hui, j'ai plein de plaisir à être avec des filles. Donc ça a complètement changé au fil du temps.
Quel est le personnage féminin qui a le plus marqué ta vie?
Sans hésitation, c'est ma meilleure amie. Ça fait 20 ans qu'on ne se quitte pas. Maintenant, on a pris un peu plus de distance parce qu'elle s'est engagée dans d'autres choses, qu'elle a un enfant, qu'elle a un métier qui est passionnant pour elle et important. Mais il y a une époque où je pouvais être avec n'importe qui dans ma vie ou faire n'importe quoi. C'était Aurélie d'abord. Et du coup, c'est certainement une des personnes les plus importantes de ma vie. En tout cas, c'est la fille la plus importante de ma vie, ça, c'est sûr.
C'est des personnages qui ont traversé les époques avec moi. Je pense qu'à un moment, il y a dû y avoir Zora Larousse, plus jeune. Après, il y a plusieurs femmes, mais toujours des femmes un peu dans l'action directe. Ulrike Meinhof, ou alors des chanteuses comme Pidgey Harvey. Là, je suis sûre que je dois oublier des filles que je trouve chouettes. Parce qu'en fait, il y en a plein des filles que je trouve chouettes. Elles disent des choses que je trouve chouettes et qui vivent des choses que je trouve vraiment classe et qui donnent de la force, en fait. Il y en a pas mal. Je pense que Virginie Despentes, par exemple, elle a été une bonne source pour moi et elle fait de choses moches, des trucs positifs et forts, quoi.
Ma sœur, elle a eu... elle a eu énormément d'importance, c'était ma deuxième maman.
Dis-moi, est-ce que t'as un crew de copines ?
Je sais pas si je peux dire que j'ai un crew de copines. Je fonctionne souvent en binôme, en fait. Mais du coup, je suis dans plusieurs crews, on va dire. Peut-être pas plusieurs crews, mais en tout cas, je découvre les crews de filles. Et je trouve ça rigolo et chouette, et ça me plaît vraiment. Mais avant ça, je crois que j'ai jamais eu de crew de copines. J'ai toujours eu des copines en binôme, mais jamais à plusieurs, en fait.
J'ai l'impression que je me sens bien dans les crews de copines. Ouais. Après, je pense qu'en règle générale, dans ma vie, j'ai pas de crew très spécifique, et j'ai une certaine tendance à passer d'un groupe à l'autre. Mais je me sens bien dans les bandes de meufs.
J'ai ma meilleure amie, qui est essentielle. Je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais eu beaucoup de mal dans la vie. Parce que pendant très longtemps, je ne fréquentais pas de filles. Et apparemment, si on en croit les psychologues, je serais une fille qui dégage des choses pas positives pour la plupart des filles classiques. Ce qui fait qu'on me regarde mal dans la rue, que les filles me regardent mal, que j'ai des rapports avec, par exemple, les femmes qui travaillent dans l'administration, c'est très dur. Donc j'ai des rapports assez conflictuels dans le milieu professionnel ou dans des schémas sociaux classiques avec les filles. J'ai encore pas tout bien compris de pourquoi elle m'aime pas ou pourquoi elle me renvoie des trucs pas cool alors que je suis plutôt féministe et prête à défendre la cause des femmes. Mais du coup, j'ai jamais été avec des bandes de filles. Et quand j'étais, et toute ma jeunesse, mon adolescence, j'étais quasiment qu'avec des garçons, quoi. Donc voilà. La, 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 la.
Est-ce que tu es déjà tombée amoureuse d'une fille ?
Oui. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Je crois même qu'à l'adolescence, la première fois que je suis tombée amoureuse, c'était d'une fille et que j'avais un peu honte et que j'osais... Enfin, si j'ai osé lui dire à elle, et on s'est écrit des lettres et c'était chouette, mais on ne s'est pas vraiment autorisé à vivre ça parce que le regard était super dur. Et après, j'ai eu d'autres rencontres où j'ai pas toujours conclu, mais j'ai été amoureuse. Et oui, les filles, ça me fait un peu vibrer parfois.
Je suis tombée amoureuse de filles à toutes les époques, à tous mes âges, on va dire. Ouais, c'est quelque chose qui a toujours existé, en fait.
Alors, c'est super compliqué pour moi, cette question, parce que j'ai du mal avec l'idée de tomber amoureuse, qu'est-ce que c'est ? Il y a des filles que j'aime profondément. Il y a des filles pour qui j'ai pu ressentir du désir. Après, il n'y a pas de filles avec qui j'ai eu envie d'avoir une relation amoureuse, sexuelle et tout ça. Mais il y a des filles qui m'ont provoqué du désir. Et j'avoue que ces dernières années, je trouve les filles beaucoup plus désirables que les garçons, ce qui me pose un certain nombre de questions. Mais en attendant, depuis un certain temps, je trouve les filles... Enfin, j'ai l'impression d'être plus touchée par les filles que par les garçons. Alors je ne sais pas si c'est moi qui change. Ouais, forcément.
Est-ce que tu as des rapports particuliers avec les femmes de ta famille ?
Moi, j'ai plutôt une bonne relation, voire une excellente relation avec ma maman, et on s'appelle assez régulièrement. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on est vraiment très proches. Je ne sais pas si on peut dire que c'est fusionnel, mais ce qu'elle dit, même si je ne suis pas toujours d'accord, elle a quand même un impact très fort dans ce qu'elle peut me dire, dans ce qu'elle peut me renvoyer, et j'en tiens vraiment compte. Après, il y a ma grand-mère aussi. Pas de la même façon, c'est quelqu'un de très tendre, de très... Je sais qu'elle est là, on ne se voit pas souvent, et on s'appelle de temps en temps. Mais il y a un amour inconditionnel. Et on est contente de savoir qu'on existe l'une pour l'autre.
J'ai quasiment aucun rapport avec les femmes de ma famille, hormis de temps en temps des obligations familiales, d'aller dire bonjour à ma vieille tante ou des choses comme ça. Moi, j'ai perdu ma mère à 7 ans et du coup, après, j'ai vécu dans ma famille, chez des tantes, des grands-mères. Et toutes les femmes de ma famille étaient dans un rapport ultra dominé. Et du coup, je les ai détestées en bloc toutes. Et les deux modèles que j'avais quand j'étais petite, c'était soit la femme à la maison qui préparait tout et qui baissait la tête quand le mari rentrait, qui disait jamais rien, qui prenait jamais position, qui était complètement dominée. Soit mes cousines qui allaient s'entraîner à marcher avec des talons derrière le stade pour être des parfaites poufiasses. Et du coup, c'est ce qui a fait que moi, à 18 ans, je ressemblais pas à une fille, j'avais pas de règles, et je voulais pas être formée, je voulais pas devenir une fille. J'ai eu vraiment un gros rejet de la condition féminine telle que je la voyais dans ma famille. Donc du coup, j'ai peu de rapport avec les femmes de ma famille.
On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes, souffre douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut, on s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps, au coude à coude j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes. Malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester. Ça nous aurait gagné du temps, bras dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se trouvait. Frangina, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Alors, on vient d'entendre un morceau de Anne Sylvestre qui s'appelle Frangine et qui un peu, du coup, nous explique dans ses relations entre meufs comment, à plein de moments, on est hyper rival et un peu un appel à être frangine plutôt que rival et à être solidaire et ensemble.
En tout cas, cette chanson, elle est très importante pour moi parce que un jour, une amie me l'a fait écouter et m'a dit « Regarde, c'est ça, être féministe. » Et je me suis dit « Ah, et ben alors, je veux bien être féministe.
» Et puis, cette chanson, elle explique aussi bien pourquoi, pourquoi, par exemple, dans les interviews qu'on entend, il y a plein de meufs qui témoignent du fait que, bah, avant, elles ne traînaient pas avec, avec des filles, des femmes. Ça leur posait un problème. Mais voilà, parce qu'on nous apprend la rivalité, on nous apprend la compétition dès l'enfance, en fait. Et bah, du coup, moi, ça m'a interrogée. Je me suis dit, ah, c'est marrant quand même, toutes ces personnes qui ont ce parcours-là. Et je me demandais si pour vous, là, sur le plateau, c'était pareil, ou si vous aviez plutôt, dans votre enfance, des bandes de copines, des bandes de potes meufs avec qui vous brassiez dans la vie.
Bah moi, déjà dans mon enfance, j'ai eu un peu des problèmes pour avoir des amis, mais j'ai quand même réussi à en avoir. C'était plus en général des relations un peu fusionnelles avec justement la meilleure amie, et dans lequel il y avait de la rivalité, mais c'était pas forcément le moteur. Et il y a par contre eu des trinômes où en général... Il y avait les deux meilleures amies et puis moi j'étais à côté. Et je me rappelle d'un truc super difficile en fait, d'avoir toujours, se sentir toujours à côté de la plaque et d'avoir toujours envie en fait, de rentrer en fait dans ce binôme, d'être vraiment intégrée et que ça marchait pas vraiment. N'empêche que ces meufs-là, elles m'ont apporté beaucoup de choses malgré tout. Et ça a été, je pense, autant de trucs joyeux, de chaleur humaine, de sentiments que, en fait, t'es raccroché à quelque chose. Qu'en dehors de ta famille, en fait, t'as des soutiens, t'as des piliers affectifs qui sont là. Autant ça m'a renvoyé ça qu'à des moments aussi, ça m'a renvoyé une grande solitude, en fait. Et notamment, c'est exactement comme elle le dit dans la chanson. À ce moment où les mecs, ils arrivent dans ta vie, en fait, parce que t'es construite comme une hétéra et que du coup, de fait, y a un moment où ça se pose, sortir avec des garçons, etc. Et là, en fait, les amis, ça devient plus compliqué, quoi, parce que c'est la chasse aux garçons et que du coup, on se divise, on se fréquente moins, on passe moins de temps ensemble et on développe vachement moins, en fait, ce rapport super sororal.
Ouais, moi je pense que c'était un peu pareil. J'avais à la fois une meilleure amie avec qui c'était vraiment très fusionnel, avec qui je partageais tout, on s'écrivait des lettres, qu'aujourd'hui je qualifierais de lettres d'amour en fait. Et puis aussi la bande de copines avec qui on pouvait passer tellement de temps juste à rigoler. Et comme toi en fait, à l'adolescence, on s'est isolées avec nos petits copains respectifs et on a perdu cette force-là que je suis très contente d'avoir retrouvée aujourd'hui. Et voilà.
Et ça vous a renforcé ou ça vous a permis d'avancer dans la vie et ces bandes de copines ou Ou justement la rivalité qu'il y avait à l'intérieur, plutôt à des moments c'était dur et...
Moi j'ai l'impression que ça m'a beaucoup renforcée, en tout cas c'est ce que j'ai envie d'en retenir, parce que de toute façon dans la vie j'ai envie de retenir ce qu'il y a de chouette dans les expériences, je crois. Et du coup j'ai le sentiment, enfin je sais pas, en fait ces copines-là, celles auxquelles je pense, que j'ai eues en primaire, j'y repense toujours en fait. J'y repense toujours aujourd'hui, j'y repense plusieurs fois par an, je me demande comment elles vont. Parfois j'ai des nouvelles d'elles, je suis toujours hyper émue. On est devenues tellement différentes, elles sont hyper insérées dans le système, dans la société, elles ont des enfants, moi pas, j'ai fait d'autres choix. Mais en fait c'est mes potes de cœur, c'est mes potes de la vie quoi. Et du coup je crois qu'il y a un peu, ce truc-là que je ressens de... Oui, de sororité, je sais pas comment le dire autrement, mais ou de solidarité de meufs, comme on disait, De oui, en fait, les personnes qui te marquent, en fait, et notamment les meufs, eh ben, elles restent dans ton cœur, là, elles restent dans ton imaginaire, elles te nourrissent toute ta vie, et en fait, tu te construis vachement en te référant à elles, à ce que tu as fait avec elles et tout. Et moi, quand tu disais ce truc d'être là ensemble et de rien faire pendant des heures, mais moi, c'est vraiment dans l'enfance et l'adolescence que j'ai les plus beaux souvenirs de ça, quoi. De ce temps inutile et en fait, en même temps, tellement utile de juste être ensemble, quoi. Et pff, oui, ça me donne envie de pleurer quand j'y repense aujourd'hui, je crois. En tout cas, et je suis aussi hyper contente, après des années, justement, de division, de misogynie intégrée que j'avais aussi, moi, en tant que meuf, d'avoir à nouveau, en fait, des liens forts avec des filles, avec des groupes de filles, de pouvoir faire des soirées entre filles où on développe des choses qui sont incroyables, en fait. Et j'en suis encore fascinée et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui continuera de me fasciner toute ma vie, ce truc-là, ce que ça peut créer, en fait.
Tu parlais de personnages marquants ou de personnes marquantes dans la vie et du coup c'était une question aussi qu'on voulait se poser, c'était est-ce que dans nos vies, et qui apparaît, qu'on entend dans l'interview, qui était est-ce que dans nos vies on a des personnages, des personnes, des femmes, des meufs, des gouines qui nous ont, ou autres, qui nous ont marqués dans notre vie et que, ou qui ont été un peu des modèles ou qui nous ont aidés dans notre enfance et adolescence, ou même après.
Moi c'est marrant parce que du coup quand on m'a posé cette question, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit en fait en priorité j'ai l'impression qu'il y avait ma mère, quoi. J'ai l'impression que c'était un peu le personnage qui m'avait vraiment marqué dans mon enfance, mais aussi parce qu'elle s'occupait quand même vraiment beaucoup de nous, elle était vraiment présente et moi ça me faisait une personne que qu'en même temps je voulais pas être comme elle parce que je voyais que je voulais pas, enfin après c'est ça, je pense que j'étais gouine déjà dans ma tête où, il y avait des trucs que je voulais pas vivre de relations homme-fille, là, homme-femme. Mais en même temps, elle faisait des travaux de dingue. Et, moi, j'ai appris à faire. J'ai appris à bricoler, à faire des enduits, à faire de la peinture, de la maçonnerie avec ma mère, quoi. Et ouais, elle retapait nos maisons. Et en même temps elle assurait, elle s'occupait de nous. En plus, même. Enfin, des fois, quand il y avait des petits bugs, ou genre, elle nous a oubliés régulièrement à l'école. Moi, je trouvais ça. Enfin, ça me faisait un truc aussi de me dire c'est ça aussi. Ça peut aussi être ça, être une femme, être forte. Et même en étant une mère, on peut trop assurer. Et même dans ce truc de nous oublier à l'école, je me dis mais c'est cool quand même qu'elle nous oublie comme ça, elle pense à sa vie et tout ça. Et sinon, le deuxième, ça c'était plus dans mon enfance où je pense que j'avais un rapport assez fort à ma mère. Et plus dans mon adolescence, où c'était vraiment très très compliqué pour moi, parce que tout ce qui correspondait à l'image que... Enfin, toutes les images qu'on renvoyait des femmes, ou tous les modèles que je pouvais avoir féminins, ça, je bloquais complètement, c'était pas possible, quoi, je voulais pas être une femme. Et je suis tombée sur cette BD qui s'appelle Tank Girl, tout à fait par hasard, dans une librairie. Et c'est trop un personnage qui m'a vraiment marqué parce que... Mais c'est marrant parce que c'est un personnage qui a été inventé par un scénariste et un dessinateur qui sont des gars. Mais qui m'a un peu sauvé la vie et qui était les premières images de meuf un peu grande gueule, qui vit toute seule dans le désert, qui conduit un tank, qui vit dans son tank, elle a les cheveux rasés, elle est trop casse-cou. Et en tant que petite fille qui était un garçon manqué, moi ça m'a fait trop du bien d'avoir cette image-là et de me dire mais en fait c'est une adulte qui est comme ça, quoi, et je pourrais être comme ça, je pourrais être. Je suis pas obligée d'être dans des trucs de féminité qui me correspondent pas. Et ouais, c'est ça, elle manie des armes. ça me plaisait bien et ça a été vraiment important dans ma vie, quoi. Et vous ?
Eh ben, moi, il y a, comme nous toutes, je pense, là, il y a énormément de personnages féminins ou de femmes que j'ai rencontrées qui m'ont marquée. Mais pour cette émission, je me suis dit, tiens, je vais parler de deux personnages. Le premier, c'est Roberte. Et Roberte, c'était une vieille dame... qui habitait en Corse, dans le petit village où ça m'arrive quelquefois d'aller, parce que ma famille, elle est originaire de là-bas. Et c'était une femme super pauvre, en fait, qui vivait dans une pièce toute insalubre, toute noire, une espèce de cave et tout ça. Et Roberte, elle avait plein de chats. C'était la dame à chats. Et moi, j'ai toujours adoré les chats et j'ai toujours adoré les dames à chats. Alors là, c'était vraiment... c'était l'amour fou. Et je passais, en fait... énormément de temps avec Roberte, à nourrir les chats, à les regarder, à les caresser, à aller chez elle. Et je sais pas, j'ai le souvenir vraiment quelque chose, vous voyez, de hyper doux et simple et facile et d'avoir juste envie d'être avec elle et de plus jamais repartir, en fait. parce que on me demandait rien, parce qu'on me jugeait pas, parce qu'on me parlait pas forcément ou quoi, mais il y avait la vie qui se faisait, faire à manger, nourrir les chats, faire des trucs, et je me sentais complètement intégrée à ce truc-là, et je sais pas, enfin, et voilà, et je pense à elle parce que je sais qu'elle est malade et qu'elle est vieille et que certainement va bientôt mourir, et du coup, je suis émue de repenser à elle. Alors j'avais envie de la citer dans cette émission. Et puis il y a une autre femme, alors là c'est plus un personnage connu qui m'a marquée, c'est, et puis dont on a vachement parlé ces dernières années et tout ça, c'est Frida Kahlo. Et il y a aussi Edith Piaf. Mais globalement, je pense, voilà, je suis marquée... Enfin, j'ai l'impression que les modèles féminins, il y a un truc de processus d'identification, c'est-à-dire que... T'as besoin, en fait, dans ta vie, quand tu te construis, de modèles. Et du coup, ben, moi, en fait, je crois que j'aime bien faire des choses artistiques, tout ça. Je me sens, du coup, peut-être proche de femmes, ou je sais pas quoi, qui sont dans ces milieux. Et du coup, Edith Piaf, ouais, beaucoup. Même si elle est beaucoup trop romantique à mon goût et que je pense que ça m'a influencée dans des directions un petit peu pourries, quoi. Et Frida Kahlo, parce que c'est une battante... Enfin, c'était, ou enfin, c'est toujours une battante hallucinante. Et moi, j'ai lu... son histoire, sa biographie, et non seulement elle était militante politique et tout, alors je peux ne pas être d'accord avec ses idées, etc. Mais voilà, elle a eu plein de problèmes de santé, vraiment des trucs super graves, et elle s'est sauvée avec la peinture, et en fait, elle l'a fait seule, ce travail-là, ce chemin-là, et toute sa vie, quoi, elle en a chié, mais grave, et elle a toujours continué avec une espèce de force et de... Je m'en foutisme jusqu'à, je trouve, l'apogée. Et ça, j'avais envie, c'est la petite anecdote que je trouve géniale et qu'on voit dans le film qui parle de sa vie, qui s'appelle Frida. Le moment où c'est, en fait, ça y est, il va y avoir une exposition où elle va pouvoir avoir ses toiles exposées. Et elle est malade, elle ne peut pas bouger. Son médecin lui dit non, là, tu n'iras pas voir cette expo, enfin, ce n'est pas possible. Et en fait, elle est sur son lit et elle se fait transporter sur son lit. Et elle arrive comme elle était, cette femme, quoi, avec ses bijoux, ses robes et tout ça, malade, allongée. Et elle arrive comme ça dans son exposition sur son plumard. Et moi, je trouve ça beau, ça m'excite, ce genre de truc.
On va peut-être écouter un petit morceau avant de passer à la deuxième partie de notre émission. On va écouter Obsession de Suzy Solidor, qui était une lesbienne, enfin pas, peut-être pas que, peut-être qu'elle était pas que lesbienne, dans les années 20 et qui était une meuf classe, quoi. C'est parti.
Chaque femme, je la veux. Des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux les inconnus. Sous leurs jupons empesés, mes rêves inapaisés glissent de sournois baisers vers leur peau nue. Je déshabille leurs seins, mes caresses paraissent, s'ébattent sur les coussins de leur poitrine. Je me vautre sur leur flanc, ivre du parfum troublant qui monte les ventres blancs vers mes narines. Je promène ma main aux rondeurs du marbre humain et j'y cherche le chemin où vont mes lèvres. Ma langue en fouille les plis et sur les torses polis, buvant les divins oublis, j'endors mes fièvres.
Alors vous êtes toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour dégenré et dérangé, mais pas toujours. Aujourd'hui on parle des relations entre femmes et alors on vient d'entendre un magnifique morceau qui parle d'amour lesbien et de sexualité lesbienne, et du coup après avoir parlé un peu de nos modèles et de qui on admirait, et ben on va passer plus à justement dans ces manières de d'exister entre femmes, et ben il y a plein de manières de relationner et ça peut être de l'amitié, de l'amour, de la sexualité, des choses entre tout ça, des ambiguïtés, du lesbianisme, de la rivalité. Mais alors du coup là, on voulait surtout parler de ces relations là, amour, amitié, comment ça se mélange, quels mots on met dessus, tout ça.
Bah alors moi c'est marrant parce que du coup moi je suis Gwyn et je pense dans une espèce de définition assez classique du terme, je tombe amoureuse de relations sexuelles avec des meufs, mais majoritairement, totalement, que quoi. Et en fait ça a eu une importance assez cruciale dans ma vie aussi, dans mon rapport aussi à ce fait d'être femme et d'être une meuf, enfin d'être biologiquement... où je pense bah aussi en tant que butch, garçon manqué, enfin on définira ça comme on veut, enfin voilà, je suis pas très très féminine pour les gens qui peuvent pas me voir car je suis à la radio. Et ben ça fait un truc où rentrer dans la communauté lesbienne, ça m'a fait un truc aussi de me sentir enfin désirable et désirée et de créer aussi d'autres relations avec des meufs dans un truc de ouais, dans un truc positif, alors qu'avant c'était plutôt dans des trucs négatifs, et aussi dans tout un truc où avant je traînais surtout dans des milieux hétérosexuels et je me sentais quand même vachement coupée de trucs, et du coup je voulais pas être une femme, et je voulais pas... Enfin, c'était très très compliqué. Mais du coup ça a commencé comme ça, un peu, de me dire que je tombais amoureuse de meufs, et là, ces derniers temps, je commence à réfléchir peut-être plus aussi à quelles autres formes de relations on peut créer que juste être amoureuse au sens classique du terme, ou être amie et séparer vraiment hyper clairement les choses. Et où j'ai l'impression que en fait autour de moi là, j'rencontre plein de gens pour qui c'est beaucoup plus nuancé ces trucs d'amour, d'amitié. Et c'était il y avait quelqu'un qui avait inventé ce concept d'amireuse. Alors, je sais pas, peut-être on pourra en discuter plus. Est-ce que vous, ça vous parle, ces subtilités-là, ces nuances-là ?
Bah ouais, moi ça me parle vachement. Et quand je repense à ma construction, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup traîné avec des filles dans mon enfance. Et j'avais une relation très fusionnelle avec ma meilleure amie. Et souvent, on nous traitait de Gwyn. Ah, les Gwyn, allez Gwyn. Et en fait, moi, ce qui me faisait marrer, c'était que, bah, justement, avec ma meilleure amie, il n'y avait rien de sexuel. Mais par contre, avec beaucoup d'autres de mes copines, il se passait souvent plein de trucs. Quand on allait dormir l'une chez l'autre ou les unes chez les autres, on se caressait, on se faisait plein de... Enfin, voilà, on a découvert notre sensualité, notre sexualité ensemble depuis les plus vieux souvenirs que j'ai, et on se faisait des câlins avec mes copines. Et ça me fait vraiment bizarre d'y repenser aujourd'hui. Et je me dis, ah bah peut-être que parmi toutes ces filles-là, il y en a peut-être d'autres qui sont devenues Gwyn aussi, je sais pas.
C'est fort possible. Moi, je me demande toujours si la première fille dont je suis tombée amoureuse, mais bon, je me suis rendu compte que c'était du sentiment amoureux que 20 ans plus tard, mais non, pas 20 ans plus tard, mais 10 ans plus tard, où j'étais très très amoureuse d'une fille qui prenait le bus en même temps que moi pour aller à l'école, et sauf que j'avais pas compris que c'était ça. Enfin, ça me faisait palpiter quand elle rentrait dans le bus, je la regardais avec des grands yeux, j'avais envie d'être dans la même classe qu'elle, voilà. Et je me demande si elle est devenue Gwyn.
Mais il y a un truc dans notre société aussi, c'est que moi, quand je faisais part de mes attirances pour les filles, que je disais « Ah, mais moi, j'aime les filles, je trouve cette fille-là, elle est trop belle, je crois que je suis amoureuse d'elle », souvent, on m'a renvoyé un truc de « Ben non, en fait, c'est pas possible, t'es pas amoureuse de cette fille, c'est juste que t'as envie de lui ressembler, c'est juste que t'as envie d'être comme elle ». Et du coup, c'était une façon de nier que c'était possible d'aimer une fille... Et du coup, moi, ça m'a un peu bloquée aussi. Je me disais, ah ben non, en fait, si j'admire tant cette fille, c'est juste que je vais être pareil. Alors bon, tant pis, j'ai qu'à pas me dire que je l'aime.
Bah moi, moi, je me définis pas comme Gwyn. Je devrais, je pense, honnêtement, me définir comme bisexuelle. Mais comme c'est un terme que je trouve qui est très péjoratif, et ben du coup... je me définis pas, ou alors j'utilise des milliards de termes complètement débiles. Mais donc, ce qui veut dire qu'en gros, j'ai des rapports forts avec des filles, mais aussi avec des garçons et avec des trans aussi. Alors bon, voilà, c'est compliqué tout ça. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de moi, mais quand même un peu. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que quoi ? J'ai oublié du coup. Oui, c'est... on parlait de quoi déjà ?
des relations.
Oui, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que rentrer dans le milieu lesbien, voilà, on va dire ça comme ça, faire des rencontres, par exemple, d'autodéfense féministe, être dans des rencontres internationales politiques, lesbiennes, etc. Moi, ça m'a fait comprendre, en fait, qu'on pouvait avoir des relations avec des personnes qui ne soient pas soit des relations d'amitié, soit des relations d'amoureuses. Et ça, c'est un truc qui a été hyper important dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu, et je pense que j'aurai encore des relations amoureuses avec des filles, mais aussi maintenant, dans ma vie, il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir, et c'est pour ça que ce terme d'amireuse, là, qu'une copine utilise, je le trouve vraiment utile. Moi, il m'a fait du bien de l'entendre, ce mot. C'est un savant mélange des deux, quelque chose qu'en fait on fabrique vraiment ensemble, où il n'y a pas forcément de modèle prédéterminé, du coup c'est difficile à mettre en place. Et en même temps, il y a plein de richesses là-dedans, et on détermine ensemble, et ben, est-ce qu'on a envie de dormir ensemble, est-ce qu'on a envie de se faire des câlins, et jusqu'où on va, et de la sexualité ou pas, quel engagement on a ensemble. On trouve des mots, on trouve des outils pour gérer tout ça. Et c'est, ouais, c'est dur, mais enfin, c'est génial, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive, je crois, à vivre avec, beaucoup avec les filles, parce qu'il y a cet espace de discussion, mais aussi maintenant avec des garçons. Alors, je suis contente.
Et par exemple, des termes comme amitié sexuelle ou amitié avec sexualité ou amour non exclusif ou des termes comme ça, ça te correspondait pas ou ça te parlait pas?
Je sais pas, je crois que j'avais pas forcément ces termes-là en tête. Et je crois que surtout, j'avais un schéma très, très binaire dans la tête qui m'avait été inculqué depuis très longtemps, quoi. Amour, amitié. Il y avait pas de... Il y avait une énorme frontière, un énorme mur entre les deux, quoi. Et je crois qu'il est en train de se détruire au fur et à mesure, mais c'est un travail difficile. Parce que je crois que, aussi, pour me protéger, moi, par exemple, j'ai besoin, des fois, de rendre les choses binaires. J'ai besoin de dire ça, c'est ça. Et tout ce qui est, en fait, en dehors de cette norme-là, donc un peu plus flou, un peu plus ambigu, un peu plus dangereux, eh ben, ça fait peur. Mais en même temps, je vois un intérêt énorme, en fait, mais pas que individuellement, aussi collectivement, dans ce que ça crée, en fait. Dans cette espèce de... Du coup, pour moi, parce qu'aussi, ça crée de la bienveillance, de l'attention, ça crée de la communication, de la discussion de fond sur qui on est. Et voilà, je trouve que... En fait, je suis contente d'avoir découvert ça. Et voilà, j'ai envie de remercier toutes les lesbiennes de politiser de la planète, en fait, de m'avoir permis d'imaginer que c'était possible de se relationner autrement. Je crois que si j'avais continué à traîner dans un milieu juste hétérosexuel et pas politisé, j'aurais peut-être pas compris, ou en tout cas j'aurais pas pu le formuler comme ça.
Moi j'ai l'impression que plus dans mon enfance ou adolescence, il y a eu en fait ce rapport justement entre amour et amitié, il était hyper ambigu, aussi parce que j'étais déjà attirée par des meufs. Et que du coup, les fois où j'avais des amis, eh ben, il y avait des moments où mes désirs ils se décalaient par rapport aux désirs des autres personnes, a priori. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais su exactement pour certaines personnes. Mais du coup, à des moments où je sentais de l'attirance, où je me sentais un peu amoureuse ou quoi, et où je pense pour l'autre personne, c'était clair qu'on était potes ou amis. Et moi, ça me faisait penser à ce rapport entre tout, hein, un peu aussi les ambiguïtés qui peuvent s'installer. Quand on peut être attiré ou pas par des femmes. Enfin, vous voyez ce rapport un peu chelou, là, et où je me souviens que quand j'étais toute petite, une fois, j'avais une amie et je voulais lui dire « Ah, et toi ?» Enfin, en fait, je voulais savoir si c'était possible, s'il y avait moyen. Alors, je voulais savoir si elle se sentait un peu homosexuelle ou pas. Sauf que je me disais que si je lui posais la question, elle allait capter direct. Alors, je n'osais pas lui poser la question. Bref, ça a tourné dans ma tête pendant des années pour que finalement, je lui demande jamais. Et que plus tard, quand je lui ai dit que je m'étais sentie attirée par elle et un peu amoureuse et tout, elle s'en était pas du tout doutée. Et elle, pas du tout, du tout, quoi. Enfin, c'était pas du tout un sentiment réciproque. Et pourtant, il y a quand même toute une période de notre vie où on se disait comment on s'aimait, comment on s'envoyait des mots d'amour, tout ça. Et en fait, c'était fou parce que... Enfin, c'est fou comment il y a des ambiguïtés qui ont pu s'installer entre nous à des moments et comment on mettait pas du tout les mêmes choses derrière les mêmes mots, quoi. Parce qu'on se disait toutes les deux « je t'aime », mais que ça avait pas forcément le même sens pour moi et pour elle.
Oui, et puis... Ah, Siam, je t'ai coupé la parole, vas-y. Non, mais c'était... Oui, j'avais envie de parler du coup, de vous demander en fait ce que c'était du coup pour vous, par exemple, être amoureuse.
Bah moi, j'ai hyper du mal à déconstruire cette division amoureuse-amie. Aussi, où je pour l'instant, ça me met encore trop en danger. J'aimerais bien travailler là-dessus et arriver à changer un peu ça. Et arriver à... Parce qu'il y a des personnes avec qui, potentiellement, je pourrais... Où je sens qu'il y a de la complicité ou quoi. Où je me dis, ah, on pourrait... Et pas de désir. Ou... Et je me dis, ah, on pourrait, je sais pas, être des super potes. Et, mais ça reste des définitions très, très floues pour moi. Et pour moi, il y a vraiment une frontière très claire entre les deux. Et sinon... Mais pour ma propre santé mentale, parce que sinon, je pense... c'est trop compliqué. Mais j'aime bien y travailler et du coup pour moi ça reste une définition assez classique quoi. Mais après je pense que j'ai été amoureuse de plus de personnes, plus dans un sens plus large, de personnes qui m'ont trop impressionnée ou que je trouve trop classe voilà, de, par exemple là j'étais à un festival, il y avait cette femme qui faisait de la guitare toute seule sur scène qui était trop impressionnante parce qu'elle faisait des riffs de dingue et elle était toute seule et toute toute impressionnante quoi. Et je pense mais je pense beaucoup de gens dans la salle sont tombés amoureuses d'elle.
Il y
dans
au
un
moins
truc
15 personnes qui sont tombées amoureuses de Lily.
Voilà.
Ouais, moi aussi.
Par exemple, nous sommes tombées amoureuses de Lily sans forcément avoir envie d'avoir une relation avec elle.
Moi, c'est en général un terme amoureuse que j'essaye de pas utiliser parce que je sais pas dans ma vie ça m'évoque peu, mais des fois par exemple dans quand je parle d'adolescence ou quoi, des moments, et ben, justement pour dire qu'il y avait autre chose que des sentiments d'amitié et d'autres formes d'attirance et d'autres formes d'envie, quoi, et ben, j'emploie ce terme-là. Mais sinon, plutôt dans ma vie, maintenant, je ne l'utilise pas. À part des fois pour me faire comprendre quand vraiment la personne en face ne capte pas ce que j'entends par... je ne sais pas, par ce que j'essaye de dire. Parce que ça rentre plus dans des schémas de dire amoureux et du coup, direct, ça fait ting, ça veut dire quelque chose.
Peut-être on pourra s'écouter une deuxième série d'interviews sur ce, pour continuer sur cette lancée de quelle importance les femmes ont dans nos vies et qu'est-ce qu'on construit avec elles. Alors, ce sont les mêmes personnes que tout à l'heure qui sont interviewées, mais sur une autre série de questions.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux meufs qui t'entourent et que t'arrives pas trop à dire ?
Non, je crois que je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire tout le temps. Et que je lâcherai pas l'affaire. Juste j'apprends à mettre des formes pour être mieux entendue. Mais sinon, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire aux filles. Si, je veux bien leur dire je les aime, puisque peut-être je leur ai pas assez dit. Mais à part ça, je crois que le reste, j'aurais tout dit.
Et bien moi, parfois, je trouve ça dommage qu'on n'ose pas plus avoir des gestes tendres quand on est copine, qu'on se retienne en fait d'avoir des gestes, que ce soit pas plus tactile. Mais c'est quelque chose de super récent pour moi en fait, parce qu'avant j'étais pas du tout tactile et ça m'effrayait même. Quand j'aime les gens, quand j'ai des amitiés fortes, ben j'aime bien pouvoir me dire que je peux serrer la personne dans mes bras, je peux me blottir dans ses bras, elle peut se blottir dans mes bras. Et chez les filles, je trouve que parfois, ça manque encore, en fait, ce côté-là.
Est-ce que tu as des relations avec des filles très différentes de toi ?
J'ai des copines très différentes. On n'a pas toujours été très différentes, mais à un moment, nos routes ont pris des chemins différents. Et c'est vraiment un questionnement en ce moment pour moi, de savoir dans quelle mesure on est toujours amis après avoir eu une amitié très forte, très complice, et que nos routes prennent des chemins tellement différents qu'il y ait des sujets qui sont un peu complexes à aborder parce qu'on est radicalement opposés. Et néanmoins, il y a toujours cette affection, ce sentiment fort l'une pour l'autre. Et on a envie d'être proches. Et il y a toujours ce sentiment-là. Et cette envie de le discuter avec elle. Et pourtant, le fait qu'on ait pris des chemins différents, le fait qu'en plus, maintenant, il y a l'éloignement géographique, ça interroge beaucoup cette amitié. Et comment ça peut... continuer à être de l'amitié, quelle forme ça peut prendre et vers quoi on va en fait. Donc c'est pas toujours évident, mais je trouve ça quand même important d'avoir des amis où on est, qui ont des chemins différents, ou en tout cas qu'on rencontre des personnes, des femmes qui sont d'âge différent, qui ont des vies différentes, parce que c'est comme ça qu'on s'alimente les unes les autres aussi, quoi. J'ai pas envie d'être dans un entre-soi non plus, quoi. J'ai envie de, ouais, d'apprendre et de pas tourner en rond.
Avec des anciennes. J'ai toujours eu une grand-mère d'adoption. Et j'en ai toujours eu. Je les vois pas forcément souvent, mais je m'entends vraiment bien avec les anciennes.
J'ai eu pas mal de rapports avec des jeunes filles. Et puis j'ai des vieilles copines que j'adore, qui ont plus de 70 ans et que j'aime, et avec qui je fais des choses depuis presque 20 ans. Donc ouais, j'ai des rapports avec plein de filles très différentes, et de milieux et de... et d'âge.
Est-ce que les relations avec les autres meufs, ça t'effraie? Est-ce que ça t'énerve? Et est-ce que ça te fait du bien?
J'ai eu trop de mal avec l'idée d'un bloc fille et d'un bloc garçon pour pouvoir dire que d'emblée, parce que c'est une fille, ça va être bien ou ça va être mal. Je crois que je suis plus attachée à des personnes qu'à des genres. Et j'ai eu très peur pendant très longtemps des rapports avec les filles parce que c'était conflictuel. Parce que j'étais pas en phase avec les adolescentes au lycée, j'étais pas en phase avec les filles de ma famille, j'étais pas en phase avec mes collègues. Donc du coup, jusqu'à ce que je rencontre des filles très engagées et très différentes, j'avais du mal à être en harmonie avec des filles. Donc je crois que je peux être en harmonie avec certaines filles. Par contre, aujourd'hui, je suis en solidarité et en bataille avec toutes les filles, quoi. Et quelles qu'elles soient et quoi qu'elles dégagent. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'empathie et de compréhension des filles que j'ai pu en avoir pendant longtemps. J'en ai longtemps beaucoup voulu aux mères, par exemple. Il y a eu une époque où je parlais très souvent des mères et dans des termes très peu élogieux et où je me leur en voulais beaucoup parce que je trouvais que c'était la fabrique du machisme, la fabrique de la reproduction sociale. Et il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi c'était comme ça et que c'était pas tout de leur responsabilité, quoi. Mais du coup, ouais, ça m'a fait très peur. Et puis, maintenant que j'ai participé à une expérience longue en non-mixité, ça va beaucoup mieux.
J'ai pas envie d'être dans un entre-soi, mais c'est vrai que c'est assez confortable le milieu dans lequel j'évolue ces derniers temps. Du coup, j'ai l'impression de vivre un peu dans une bulle. À côté de ça, ouais, les filles, ça peut m'effrayer. Si dans le monde du travail ou des choses comme ça, où je dois côtoyer des filles diverses et variées, eh ben, ça peut m'effrayer parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent dans la norme féminine, dans les centres d'intérêt aussi. Donc du coup, je veux pas être jugeante, mais ça m'agace et du coup, je suis un peu coincée dans ce truc, quoi.
Je crois que globalement, ça me fait du bien. Après, je peux peut-être parler de avant. J'ai eu plusieurs fois des relations conflictuelles avec des femmes. Je pense parce qu'on était toutes les deux des femmes. Je me rappelle à l'école, il y a des profs avec qui ça passait pas. Enfin, et j'ai rien fait pour, quoi. J'ai deux profs au lycée notamment qui ont jamais pu rentrer en contact avec moi. Qui, même dans une classe de 14, n'arrivait pas à se rappeler de mon prénom, enfin, au bout de 6 mois. Enfin, des espèces de, je pense, de blocage inconscient de leur part. Plus tard, j'ai vraiment analysé ça sur le terme d'une espèce de conflit de genre. Moi, j'ai l'impression qu'à plusieurs moments dans ma vie, j'ai eu des relations qui ont été de l'ordre de la concurrence, je pense. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas parce que, d'une part, je pense que mon entourage n'est pas le même. Et d'autre part aussi parce que j'ai conscience que ces choses-là, elles peuvent se mettre en place et que, du coup, j'agis différemment pour les transformer, pour faire en sorte qu'elles n'existent pas.
Et qu'est-ce que tu penses de la non-mixité ?
Alors, la non-mixité, au départ, ça m'évoquait l'horreur absolue. Parce qu'ayant toujours vécu avec des garçons et ayant peu d'affinité avec les filles, c'était vraiment le pire truc qui pouvait m'arriver dans la vie, d'être qu'avec des filles. C'était une grosse angoisse. Et c'est encore pas évident. Je préfère encore les endroits mélangés où les gens sont mélangés. Mais par contre, plus ça va et plus j'ai l'envie et parfois même le besoin d'être entre filles. Et en tout cas, depuis que j'ai compris l'importance et l'intérêt de la non-mixité, c'est quelque chose que je défends âprement et j'encourage vraiment les filles à, dans toutes sortes de, je dirais, dans toutes sortes de centres d'intérêt, à pouvoir parfois se retrouver entre filles. Parce que vraiment, effectivement, ça change les rapports, ça change ta parole, ça change ton attitude, ta manière d'être, ça change plein de choses et ça apporte beaucoup de choses, et notamment créer, construire ou penser entre filles, ça nous permet une expression et d'oser des choses qu'on n'oserait jamais dans des milieux mixtes. Donc c'est, pour moi, c'est devenu quelque chose de très important, alors que c'était une grande angoisse. Comme quoi, tout est possible.
Eh bien, j'ai découvert la non-mixité, pareil, il n'y a pas si longtemps, en organisant une marche de nuit à Paris. Eh bien, ce n'est pas forcément simple, mais en tout cas, ça a été super riche, quoi. C'est pas une fin en soi, mais ça m'a vachement remué et m'accepter en tant que fille et voire femme. Mais ça, c'est encore un peu compliqué. Donc, je dis plutôt fille. Maintenant, je trouve ça chouette d'être une fille et je le revendique haut et fort, mais parce que j'ai été en non-mixité et que ça m'a rendue forte et que ça m'a permis d'aller plus loin dans la connaissance et de mon corps et de mon esprit et des relations entre filles. Ouais, ça, je trouve ça chouette et je trouve ça vraiment génial.
Aujourd'hui, je peux trouver ça vraiment d'une part intéressant et en plus important. Bah, notamment les monologues du vagin, j'ai trouvé que ce qui s'est passé, ça aurait pas pu se passer si ça avait été en mixité. Et après, je trouve ça chouette, parce que je trouve ça chouette justement d'être entre meufs, d'être en bande de meufs. Et que, voulu ou pas, j'aime bien ces moments-là.
Ouais, un truc quand même entre filles que j'aime pas du tout et qui se retrouve dans n'importe quel milieu, et moi j'en suis pas exempte, c'est les cancans. En fait, je trouve que les filles, on a tendance quand même à facilement se... À la fois on va se soutenir, mais à la fois on peut se cracher dessus et pas de façon tendre. C'est même plutôt parfois violent ou alors perfide. Je trouve que ouais, parfois on peut vraiment être sournoise et perfide et j'aime pas. Mais quand je dis ça, je m'inclus dedans parce que j'ai pu avoir beaucoup cette attitude. Je pense qu'en ce moment, d'ailleurs, je suis vachement dans ce travail d'éviter de ragoter. Et plutôt, si quand une situation ne va pas avec la personne, je préfère aller la voir directement et en parler posément avec elle, même si c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, mais j'aime pas ce truc de sous couvert de on se confie à une autre copine, et ben on finit par ragoter et aller trop loin en fait dans nos propos.
Cette mélodie, tu l'aides. glauque. Je suis soucieux. Tu es toute seule. J'ai plein d'amis. Ils m'aiment tous. Je m'adore aussi. On ne pourra plus se voir ni dimanche ni lundi. Plus de poupées poucraves, plus de manches-disques pourris. Je te laisse le solitaire, moi je reprends la Barbie. Mais ne sèche pas tes larmes, ton drame n'est pas encore fini. Tu es laide, je suis jolie.
Bonsoir, vous écoutez toujours Dégenré. Alors là, on vient d'écouter un petit morceau de Constance Verluca qui s'appelle « Tu es laide ». Alors voilà, c'est un morceau un peu triste et tragique. Et tout ça, c'était pour enchaîner sur le fait que bah, voilà, les relations entre meufs, parfois, bah, c'est dur et c'est trash. Et on peut aussi se renvoyer des trucs horribles entre meufs. Là, on était plusieurs en discutant, à constater qu'on avait des anecdotes dans notre adolescence ou dans notre enfance de ruptures hyper dures d'amitié ou de choses hyper compliquées avec des filles ou des copines. Et du coup, voilà, on voulait parler aussi de cette spécificité-là aussi de relations entre meufs, où ça fait aussi partie de notre construction. Bah, comme dans la chanson d'Anne Sylvestre qu'on a écoutée un petit peu au début, où on nous apprend à soit être en compétition, soit à se détester. Et là, c'est plus ce truc de « tu es laide, je suis cool ». Et ouais, j'ai l'impression que ça arrive super souvent. Moi, je me souviens de au collège, ce truc de groupe de potes qui viennent te dire « non, mais c'est bon, arrête de traîner avec nous, t'es pas assez cool ou t'es moche » ou qui te font sentir que t'es pas la bienvenue. Et on était plusieurs à avoir des anecdotes comme ça. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé.
Moi, ça m'est arrivé à fond aussi parce que j'étais assez exclue et à côté de la plaque et sans amis. Mais j'ai l'impression que c'est arrivé tout autant à des personnes qui étaient intégrées vraiment à des groupes de potes que même à l'intérieur des groupes et des bandes de copines, ça pouvait exister. Mais moi, je l'ai plus vécu dans un truc d'être justement à l'extérieur de ces groupes-là et d'essayer de me rattacher à eux parce que c'est vraiment trop la honte d'être seule. Et du coup, de se prendre dans la gueule, arrête de nous suivre, t'es un petit chien, des trucs comme ça. Et assez dur, et pendant longtemps. Et du coup, mais je me souviens vraiment de ces trucs-là. Et aussi, comment bah, tout était basé un peu sur plein de petits trucs qui permettent d'avoir la classe ou d'être déconnecté de la bonne réalité, quoi. Et du coup, il y avait vachement de trucs autour de l'hétérosexualité, quoi. D'arriver à avoir un copain, d'être attiré par des gars... d'en parler, et puis aussi plein de choses de culture commune, d'aller à des fêtes, d'aller à des soirées ensemble, d'écouter la même musique, des choses comme ça. Et qu'à partir du moment où on ne partageait pas ces choses-là, en fait, on n'avait pas grand-chose à partager, quoi. Du coup, assez vite, ça faisait des étincelles où même il se passait rien, les gens, ou des trucs de pas parler, quoi, d'ignorer la personne, etc.
Ouais, moi, la rivalité, la concurrence, je pense que c'est vraiment les deux choses qui me font le plus peur, en fait, dans les relations entre meufs, parce que, justement, en tant que féministe, j'ai une attention particulière, en fait, à essayer de créer des rapports avec... avec les meufs qui soient chouettes, et j'y mets beaucoup d'énergie, et en fait je me rends compte que malgré cette énergie que j'y mets, et ben je suis face à mes limites, quoi. Il y a des moments où il y a des personnes, je les aime pas, enfin des personnes, du coup des meufs, je les aime pas, ça marche pas avec elles, ça me fait du mal, j'aime pas ce qu'elles font, j'aime pas comment elles sont, et j'ai du mal des fois à détacher de la misogynie que j'ai à l'intérieur de moi, de, à un moment donné, ben, on est des individus, on a des constructions différentes, on n'agit pas pareil, on pense pas pareil, et du coup, on s'apprécie pas. Et comment on fait avec ça, quand on a des choses à faire ensemble, par exemple, travailler ensemble, ou avoir des amis en commun, etc. Et c'est encore des grands questionnements pour moi, parce que oui, bien sûr, dans l'adolescence, moi aussi, ça m'est arrivé, il y a un moment donné... au collège, collège-lycée, moi, j'arrêtais de traîner avec des filles, quoi. Parce que j'en pouvais plus de la concurrence, en fait. J'en pouvais plus de la rivalité, j'en pouvais plus d'être sans cesse mise sur, à l'épreuve, en fait. Et du coup, je me suis mise à traîner avec des mecs parce que je pouvais faire le garçon manqué, là, comme on dit. Et que, de toute façon, j'étais un central, parce que j'étais une fille. Et du coup, je maîtrisais la situation. Il a fallu vachement de temps pour que je revienne vers les filles, parce que je crois que j'étais bien traumatisée. Mais aujourd'hui... il y a eu toute cette période dans ma vie de solidarité féministe très forte, de découverte de la non-mixité, de tout ce que ça apporte. Et maintenant, la question qui se pose de bah, comment je fais pour gérer mes conflits avec les meufs, en fait. Parce que c'est des choses qui arrivent, quoi.
Ouais, moi, je pense que j'ai été très construite par un sentiment qui est le sentiment d'envie et de jalousie. Aux autres meufs qui sont, enfin qui étaient plus classe que moi ou qui avaient trop la classe ou qui étaient plus populaires que moi, et je me disais waouh, ces filles, j'oserais jamais leur parler, j'aimerais tellement être leur amie, mais en fait je suis pas assez bien pour ça, et c'est quelque chose qui malheureusement aujourd'hui me construit encore, et encore aujourd'hui alors que je suis féministe et que je suis avec d'autres féministes. Bah, j'ai l'impression que j'ai encore cette espèce de peur d'aller vers les meufs qui ont trop la classe, et ça m'embête.
Mais parce qu'on est construit, dans ces mécanismes-là, et du coup c'est hyper dur à réfléchir, à déconstruire, à, ne pas être... Je t'ai coupé.
Ah non, c'est...
Ouais, je disais, c'est hyper dur aussi de ne pas être dans ces mécanismes de rivalité, de misogynie intégrée. Enfin, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on a aussi tout réfléchi, tout compris à la vie, et qu'on peut pas reproduire des trucs qui sont pas cool, quoi. Et j'ai l'impression que, ouais, même dans... Enfin, il peut y avoir ce truc de... dans des sphères plutôt hétérosexuelles, de rivalité par rapport à des gars, mais c'est pas mieux forcément chez les gouines. Il y a aussi de la jalousie, il y a aussi de la rivalité, il y a aussi... il y a pas que de la solidarité. Et c'est un travail à faire, et c'est sûr qu'on n'est jamais... Tout est jamais gagné.
Mais après, j'ai l'impression que... Enfin, j'espère quand même que ces trucs-là de groupe, de tout un groupe qui se ligue contre une personne avec le féminisme, justement, c'est des choses qui arrivent moins ou pas. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même un truc aussi qui se passe hyper fort à l'école et tout ça, dans ce truc aussi où, comme on est en construction, là, il y a plein de choses à gagner. Et puis, où en fait, juste, c'est hyper cruel, quoi. Et j'ai l'impression qu'au collège, par exemple, les gars, ils étaient... Pardon. Ils étaient assez horribles et tout, mais en même temps, comme c'était assez normal que les gars et les filles soient séparés ou soient un peu fassent pas les mêmes choses, etc. Genre les gars ils jouaient au foot et les filles elles étaient assises sur le banc à discuter. Et ben c'était pas si grave en fait d'être exclu des groupes de gars, mais ces trucs-là de groupes de filles qui se liguent en fait contre une personne et tout. Dans un moment où justement la solitude, eh ben, ça peut pas être quelque chose de positif, où on peut pas avoir besoin et se sentir bien dans un truc d'être seul, etc. Eh ben, c'est hyper dur, quoi.
Moi, je trouve que la rivalité, en plus, entre meufs, elle est d'autant plus dure quand t'as une conscience féministe. C'est-à-dire que t'as envie d'être solidaire par principe, en fait, des autres meufs, parce que t'es féministe et que tu sais que la condition de meuf, de femme, de fille, on l'appellera comme on voudra, eh ben, elle est dure, en fait, c'est une condition d'opprimée. Et que, du coup, toi, tu partages la même, et en fait, t'as envie d'être dans ce truc de sororité, là, ce truc de proximité. et que malgré ça, voilà, il y a des clashs, il y a des problèmes, il y a des gros bordels à régler là-dedans, parce que ça nous renvoie aussi à notre condition d'individu. Mais je trouve ça, voilà, d'autant plus difficile à gérer qu'on est des meufs et qu'on s'en prend déjà plein dans la gueule, en fait, du fait d'être meuf. Mmh. Et du coup, je crois qu'on a encore beaucoup d'outils à élaborer, en fait, ensemble, pour essayer de communiquer, faire que nos relations, elles se passent mieux, réussir à se dire les choses, réussir à, voilà, s'accepter, entre guillemets, comme on est, sans, tout en écoutant ses limites, ce qu'on peut pas accepter de l'autre, etc. Et du coup... Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est en train de se faire en ce moment concernant aussi la question des violences. Alors là, je dérive peut-être un peu, mais des violences aussi dans les couples lesbiens. En fait, c'est quelque chose qui a été assez peu étudié. On a peu d'outils, en fait, pour en parler. Et il y a des gens en France, vers Toulouse, qui apparemment, en fait, sont en train de faire tout un boulot et réfléchissent à ces questions de quelle grille d'analyse on peut utiliser, en fait, quand deux femmes se font vivre de la violence, comment ça marche, parce que c'est pas exactement les mêmes que dans un couple hétéro, et du coup, comment on agit dessus, comment on s'en sort. Et en fait, moi, je trouve ça vraiment super que des gens commencent à bosser sur ces questions, parce que je crois qu'on a besoin de ces outils, en fait.
À ce sujet-là, on ne pourrait que vous conseiller d'écouter l'émission de nos camarades transpédéguines de On n'est pas des cadeaux, qui ont fait une émission sur ce sujet de la violence conjugale entre lesbiennes.
Mais j'ai l'impression aussi qu'un des outils d'analyse qui répond un peu à ça, c'est aussi comment en fait, c'est pas le seul système d'oppression, les rapports de genre, mais qu'il y en a d'autres, et que du coup, à plein de moments, et ben, ça crée des différences entre les femmes, et que c'est pas parce qu'on est femme qu'on est toutes pareilles, et aussi comment on a des rapports différents en fonction de justement notre rapport au féminisme, et qu'être solidaire d'une féministe, eh ben, je trouve ça toujours plus simple qu'être solidaire d'une antiféministe qui n'hésitera pas à m'en foutre plein la gueule pour des questions de rivalité. Et en fait, c'est quelque chose qui peut arriver à des moments, justement, ce rapport avec des femmes qui sont antiféministes, en fait.
Ça m'est arrivé très récemment à très bien voir que la personne avec qui... j'ai des problèmes, elle est juste dans un rapport de rivalité avec moi, et j'ai beau essayer de lui dire, bah en fait non, là il est en train de se passer ça, et il vaut mieux qu'on soit fort ensemble, parce que là en ce moment, t'es en train de faire passer les relations avec les gars avant celles avec les filles, et ça va te retomber dessus, mais que ben, finalement je me retrouve à m'énerver contre elle, et on finit par être fâché comme n'importe quel cliché de meuf qui se... tape dessus, et ça reste un... Et les autres gars qui sont autour, ils me disent, ah bah voilà, encore des filles qui se crêpent le chignon. Et je me dis, mince, je suis en train de reproduire un truc pourri.
Mais alors, ce qui enchaîne merveilleusement avec un peu de la thématique suivante qu'on voulait aborder, mais ça va être abordé assez rapidement vu le temps qui nous reste. Mais c'est la question de la sororité, en fait, où, qui est un concept assez flou, et qu'à plein de moments, enfin, qu'il y a plusieurs manières de le comprendre et de l'entendre. Et du coup, je voulais retracer un espèce d'historique rapide de ce terme-là pour pouvoir peut-être après échanger vite fait dessus. Et alors, la base, c'est l'origine de ce mot, c'est une origine latine, ça vient du mot soror, qui veut dire à la fois sœur, mais aussi cousine. Et alors, il apparaît en France, il est un petit peu utilisé au Moyen-Âge pour... parler de communautés religieuses, mais après, surtout, il réapparaît dans les années 70 à partir de traductions de termes américains. Et du coup, il y a deux termes différents en anglais qui sont traduits par le même terme, sororité, en France. Et du coup, il y a déjà aux États-Unis, pendant un moment, je crois que ça existe encore, des groupes dans les universités de gars, et je crois qu'ils s'appelaient les fraternities ou un truc comme ça. Et du coup, il y a des filles qui se sont regroupées aussi en groupe et qui s'appelaient les sororities en anglais, enfin sans l'accent anglais, vous voyez, mais ça veut dire ça, et qui se regroupaient en groupe qui s'appelait les sororities, avec un peu des rituels d'entrée dans le groupe, etc. Et ce terme, il a été traduit en français par sororité. Et du coup, les personnes disent je fais partie d'une sororité ou quelque chose comme ça. Et bon, ce qui est assez bizarre, parce que du coup, le terme anglais qui définit en fait les groupes de gars, se définit plus comme confrérie en français. Et du coup, on n'a pas fait des consorerie, mais on a fait des sororités, vous voyez. Et par contre, il y a un autre terme en anglais qui a été plus fabriqué par des féministes américaines qui voulaient justement fabriquer un concept qui soit le féminin de fraternité, en fait, comme la solidarité entre les femmes. Et du coup, elles ont appelé ça « sisterhood ». Et du coup, le concept de sisterhood, il a aussi été traduit en français par sororité. Et en gros, ça serait les liens qui existent entre les femmes qui ressentent des similitudes ou des vécus semblables et qui partagent leurs conditions féminines. Et du coup, qui se sentent un peu genre toutes sœurs, quoi. Et du coup, c'est la sororité comme fraternité qui définit la solidarité entre femmes, en fait. Et voilà, et maintenant c'est plus utilisé, si on parle de la sororité comme un concept, on entend du coup le pendant féminin de fraternité, en gros. Mais c'est aussi, du coup ça a été beaucoup utilisé par des groupes féministes, mais aussi en fonction des groupes féministes, et ben ça n'avait pas forcément le même imaginaire ou quoi. Et du coup, pendant qu'on préparait l'émission, il y a eu ce truc de se dire, mais pour vous, ça veut dire quoi, sororité, et c'est plutôt négatif ou positif? Alors, je sais pas, peut-être on peut répondre vite fait à cette question-là.
Bah, moi, c'est marrant parce que moi, ça m'évoque vraiment plus un truc. À la base, ça m'évoquait plus un truc négatif. Et c'était plus un mot qui me faisait peur parce que ça me renvoyait à ce truc de confrérie aux États-Unis qui est quand même un truc assez élitiste. Et quand tu fais partie d'une sorority, là, c'est un peu quand tu es dans une grande université, tu fais partie des meilleurs. Et du coup, t'es un peu l'élite de l'université. Ça m'a envoyé à ça et des fois, ça m'a envoyé un peu à un espèce de truc. Qui me met des fois mal à l'aise de ce truc de on est femme donc on est toutes sœurs dans un truc assez qui des fois je pense me perturbe, mais ce qui est étrange parce que je suis féministe et je suis pour la solidarité entre femmes, mais ça m'a envoyé un truc peut-être trop naturaliste ou trop mais du coup de faire cette émission ça m'a fait réfléchir aussi à ce terme là et du coup je pense que maintenant il me gêne moins.
C'est marrant, moi ça me fait penser à quand j'étais petite, j'ai été élevée par la fille de mon beau-père. Donc, j'avais pas lien de sang avec elle, là, comme on dit. Et je l'appelais ma sœur d'occasion. Et c'est resté un truc hyper, je sais pas, en fait, un concept que j'aime bien. Et du coup, voilà, je crois que le mot sœur, parce que pendant longtemps, j'ai pas eu de sœur, maintenant j'en ai une petite. Mais moi, quand j'étais petite, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande sœur. Et ça m'a manqué dans ma vie énormément, en fait, de pas avoir ça. Parce que je le voyais comme une personne à peu près du même âge que toi, avec qui tu vas pouvoir partager d'expériences, puis qui va te guider, qui va t'aider. Parce qu'il y a des choses dont tu peux pas parler à tes parents, puis pas à tes copines, mais alors que ta sœur, voilà. Et du coup, ouais, je crois que du coup, la sororité reste un terme pour moi qui m'évoque ça, là, quelque chose de nécessaire, en fait. Quelque chose, pour moi, c'est un peu un vieux mot. Je l'associe aux années 70, au MLF. Je vois des images en noir et blanc de femmes qui se tiennent la main dans les rues et qui manifestent ensemble. Et du coup, c'est très émotionnel pour moi. Et c'est un terme que j'aime bien. Mais je pense que du coup, en ayant parlé cet après-midi avec quelqu'un qui est anglophone, et après avoir compris que justement sisterhood n'avait pas de traduction française, je me suis dit tiens, je pourrais remplacer sororité par lequel je suis pas super convaincue par sisterhood, et finalement je dirais sisterhood avec un mauvais accent et ce sera pas grave, mais je crois que ce mot j'ai pas trouvé de néologisme en fait en français pour le traduire et je trouve plus proche de moi. C'était donc le passage émo.
Et peut-être on va enchaîner avec un petit morceau de musique. On va s'écouter un morceau qui s'appelle Oli Oli Ola, qui est une reprise d'une chanson italienne des années 70, une chanson qui a été écrite pendant les luttes autonomes des années 70. Et à la base, c'est une chanson écrite par des socialistes et qui a été reprise par des féministes de cette époque-là, qui remplacent le terme socialiste par féministe et qui appellent à l'union entre les femmes dans la lutte, parce que la révolution sera féministe ou ne sera pas.
Et moi, je voulais juste rajouter un petit truc avant sur cette notion de sororité, où moi, je vois un truc qui me gênait, par exemple, et j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'était, vous voyez un peu là, cette notion de dire « Ah, on est toutes sœurs », toi, tu disais un peu là, c'est un petit peu un naturaliste ou je sais pas quoi, et où moi, ça me faisait un truc de dire « Bah, c'est un peu à côté de la plaque, quoi, comme si on était toutes pareilles ou comme si on vivait toutes les mêmes choses et tout. » Et en même temps, de bien voir qu'il y a des liens, en fait, à plein de moments, et en même temps, de me dire « Mais en fait, il y a aussi des situations tellement différentes et tout ça que je trouve ça un petit peu hippie fleur bleue ou je sais pas quoi, ou un petit peu romantique comme concept, en fait. » Et du coup, des fois, je m'y retrouve pas vraiment. Et en même temps, vu l'importance dans notre République du terme fraternité, eh ben, ça me saoule vraiment, en fait, ce masculin qui l'emporte. Et en vrai, je ressens beaucoup plus de sororité que de fraternité, quoi. Voilà. Alors du coup, je voulais dire ça avant le morceau.
Siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe, e noi altre femministe. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe vogliamo la libertà.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amore della vita, per amore della vita.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amore della vita, in guerra ci mettiamo. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe, e noi altre femministe. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe vogliamo la libertà.
E la libertà non viene perché non c'è l'unione tra di noi tutte donne, tra di noi tutte donne.
E la libertà non viene perché non c'è l'unione tra di noi tutte donne. Da oggi va a cambiare, oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe, e noi altre femministe. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe vogliamo la libertà.
E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia.
E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, adesso noi lottiamo. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe, e noi altre femministe. Oli oli olà, e la donna si sveglierà, e noi altre femministe vogliamo la libertà.
Alors après ce petit morceau révolutionnaire, bah, on va passer aux infos. Alors on va vous parler un peu de ce qui se passe en Espagne. Alors là, vous, si vous regardez un peu les actualités, vous pouvez voir que bah, c'est un peu la révolution là, en ce moment en Espagne. Il y a des gens qui occupent des places tous les soirs, des milliers de personnes. Bon, on n'entend pas trop parler dans les grands médias, mais on peut trouver des informations assez complètes et assez chouettes sur les médias alternatifs, genre les sites Indymedia, toutes les autres les sites d'information alternatifs. Et du coup, dans le cadre de ces rassemblements et de ces protestations, bah, y a des féministes qui ont écrit un manifeste qui s'appelle le Manifeste féministe de l'Assemblée féministe de la Puerta del Sol à Madrid, qui est une de ces places qui est occupée depuis quelques jours. Là. Alors, bah, on va vous en faire une petite lecture.
Parce que la révolution sera féministe ou ne sera pas.
Nous sommes sur la place car nous voulons une société dont le centre soit les personnes et non les marchés financiers. Nous revendiquons donc la gratuité des services publics et vitaux que sont l'éducation et la santé face aux réductions sociales et la réforme du travail. Nous exigeons l'usage d'un langage non sexiste qui nomme toutes les personnes sans trace d'homophobie, de machisme et de sexisme. Nous voulons un compromis d'hommes et de femmes afin de construire une société qui n'admette pas la violence machiste. Notre corps nous appartient, c'est pourquoi nous acceptons les multiples formes de vivre, le sexe et la sexualité, lesbienne, gay, intersexuelle, bisexuelle, homosexuelle, transgenre, etc. Queer. Nous revendiquons l'avortement libre et gratuit. Il est indispensable d'incorporer l'approche féministe au sein des politiques économiques, au sein du service public, dans la création d'un autre modèle de ville et au sein des politiques de l'environnement afin de sortir de la crise. Nous exigeons que les employés domestiques ou employés du foyer soient inclus au sein du régime général de la sécurité sociale. Nous exigeons que la transsexualité ne soit plus considérée comme une maladie. Et enfin, nous exigeons des papiers pour toutes et que les femmes migrantes jouissent de tous les droits.
Et alors, si vous voulez soutenir ce qui se passe en Espagne et que vous êtes à Grenoble ou pas loin, sachez que tous les soirs à 20h, place Victor Hugo, il y a un rassemblement en soutien aux révoltes en Espagne.
Et alors, aussi, on avait bien envie, en tant que radio de féministe, de rebondir un peu sur l'affaire DSK, là, dont vous avez certainement entendu parler, parce que ça occupe toute la place dans les médias. Pour dire que nous, on était un petit peu, même carrément choqués par le traitement médiatique de cette histoire. Parce que ce qui revient hyper souvent, c'est en fait soit des espèces de... De personnes qui disent non mais c'est pas possible, on n'aurait pas pu croire ça de lui, c'est un homme honnête, c'est un grand homme, puis vraiment plein d'hommes politiques qui s'expriment, qui résument cette histoire d'agression sexuelle présumée à une affaire de jupons, à une chasse à l'homme, à un troussage de domestiques même. Des personnes comme Jack Lang qui disent qu'il n'y a tout simplement pas mort d'homme, du coup faut arrêter de faire grand cas de cette histoire.
Une normalisation du viol quoi, comme si c'était quelque chose de... Voilà, acceptable, quoi.
Oui, et puis on voulait rappeler que, c'est pas que c'est pas crédible. En fait, DSK, c'est un homme de pouvoir, c'est le patron du FMI, et en fait, c'est un grand classique. Les personnes qui ont du pouvoir, elles n'ont pas l'habitude qu'on leur oppose des refus, et tout leur est dû, et en fait, c'est tout à fait probable, possible. Les agressions sexuelles, c'est l'apanage de tous les hommes et pas seulement de psychopathes marginaux ou de jeunes à casquette qui font des tournantes. Enfin, c'est vraiment hyper répandu. Et alors, il y a un texte assez chouette qu'on peut trouver sur le site Les mots sont importants. Alors, l'adresse, c'est http://lmsi.net. Et on peut vous renvoyer à aller voir ce texte parce qu'il est vraiment assez chouette et c'est une bonne critique aussi du traitement médiatique de l'histoire de DSK.
En tout cas, moi je trouve que cette meuf qui a porté plainte, elle a bien eu du courage et que j'espère bien que ça servira à faire bouger des trucs, même si je suis pas hyper convaincue que la justice d'aucun pays, en fait, elle aille dans notre sens. Mais moi, je trouve ça chouette qu'elle ait fait ça.
Ouais, mais ce qui est super angoissant aussi, je trouve, c'est qu'on a hyper peu entendu parler d'elle. Enfin, sa parole n'a pas arrêté d'être mise en doute, et je trouve ça hyper grave que justement les réactions du milieu politique et des milieux médiatiques, ça soit cette mise en doute de la parole de la potentielle victime, plutôt que la prise en compte de sa parole, en fait. Et nous, en tant que féministes, on trouve ça choquant que ça soit soudain la présomption d'innocence de Dominique Strauss-Kahn qui prenne toute la place, et tout d'un coup, les médias se préoccupent de la présomption d'innocence, alors que dans tout un tas d'autres affaires... Passe joyeusement à la trappe, les gens sont accusés d'être coupables toutes les 2 secondes 30 à la radio, à la télé, et tout d'un coup, c'est un peu l'élite de la nation qui commet un crime, alors c'est la présomption d'innocence, c'est les justifications, les excuses, et ça nous fait un peu gerber.
Et c'est grave et pourtant tellement peu étonnant. Enfin, c'est pas nouveau que les médias sont pas vraiment au service d'autres visions du monde moins sexistes et tout ça. Mais alors, on arrive à la fin de notre émission. Et alors, ce qu'on avait envie de dire aussi, c'est que cette émission, c'était un peu un premier volet et qu'il y avait plein d'autres choses qu'on avait envie d'aborder, d'approfondir, tout ça. Et que, genre sur les relations dans la famille ou alors intergénérationnelles, c'est-à-dire avec des personnes d'âge très différents, tout ça. Et alors, comme vraiment, c'est trop court, 1h30, on va écouter un dernier morceau de musique et puis... on va arrêter là cette émission et puis on vous tiendra au courant quand on recommencera à parler de ce sujet tellement dense.
Et alors ce morceau, c'est un morceau qui s'appelle Désir de Donna, qui est chanté par un chœur de femmes bulgare à Sofia.
Au revoir.